chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui sur la thématique centrale de ce séminaire, la notion d'urgence climatique, et montrer, réfléchir avec vous sur quel est son lien avec la notion de justice climatique. Et à mon avis, l'urgence climatique est fondée sur trois données empiriques fondamentales, et ces données empiriques soulèvent par elles-mêmes des problèmes éthiques, de telle sorte que lorsqu'on réfléchit à l'urgence climatique, nous arrivons de manière tout à fait logique à des réflexions sur la justice climatique. Donc, ces trois données empiriques qui vont structurer mon exposé sont les suivantes. Premièrement, nous disposons d'un budget carbone, mais ce budget carbone est d'une part restreint et d'autre part, il est en train de diminuer très rapidement. Deuxièmement, le changement climatique est structuré par des inégalités globales que l'on peut qualifier de radicales. Et troisièmement, de nombreux impacts climatiques menacent les droits humains de base. Cela soulève une ancienne question, la question kantienne, que dois-je faire ? Et c'est pour ça que mon exposé aura à la fois un versant plus focalisé sur les problèmes, mais nous allons arriver également à des réflexions plus proches des solutions, donc de manière totalement complémentaire avec ce que mes prédécesseurs ont fait aujourd'hui et hier. Donc avant d'entrer dans l'exposé, je précise que ma réflexion repose sur trois principes normatifs fondamentaux. Premièrement, tous les humains jouissent de droits fondamentaux comme le droit à la vie et à la subsistance, le droit à la santé. Deuxièmement, les droits humains sont corrélés à des obligations morales. Ça veut dire que chacun a un devoir minimal de justice de ne pas contribuer à la violation des droits autrui. Et troisièmement, afin de respecter ce devoir de ne pas contribuer à priver autrui de ses droits fondamentaux, nous avons tous un devoir individuel de justice climatique qui se décline en deux composantes. Un devoir de réduire autant que possible notre empreinte carbone, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce dont nous avons déjà discuté aujourd'hui, et également un devoir de promouvoir l'action collective contre le changement climatique. Donc, ma première figure est une figure que vous avez déjà vue tout à l'heure, c'est le budget carbone. Le budget carbone repose sur la relation entre les émissions de CO2 et l'augmentation des températures globales. Nous sommes à peu près ici aujourd'hui, et la suite représente les différents scénarios possibles, avec le scénario le plus optimiste qui nous fait rester sous les 2 degrés et les 1000 gigatonnes de carbone, et le scénario le plus optimiste qui nous rapproche très dangereusement des 5 degrés et qui nous fait dépasser les 2000 gigatonnes de carbone. Donc, où en sommes-nous actuellement, si l'on veut calculer le budget carbone qui reste à l'humanité pour éviter un changement climatique que l'on peut qualifier de dangereux? Pour avoir 50% de chance, ou une chance sur deux, de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, nous ne devrions pas émettre plus de 1000 gigatonnes de carbone. C'est le chiffre que vous avez ici. Au rythme actuel d'émissions, nous allons épuiser ce budget carbone en décembre 2034. Donc, ce site internet, Triumstone, c'est un compte à rebours qui montre à l'humanité où est-ce que nous en sommes en termes de budget carbone restant. Si nous choisissons une probabilité plus élevée que 50% de rester sous la limite de 2 degrés, ou si nous descendons à 1,5 degré comme objectif, ou si nous ajoutons au CO2 d'autres gaz à effet de serre, il nous reste encore moins de temps que 15 ans. Et le GIEC, dans son rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5 degré publié l'année passée, confirme cela. Il prévient que pour garantir une probabilité de 66% de rester en dessous de 1,5 degré, nous avons un budget carbone de 420 gigatonnes de CO2. Actuellement, nous émettons 42 gigatonnes de CO2 par année, ce qui veut dire que si nous maintenons ce rythme d'émission, notre budget carbone, pour rester environ en dessous des 1,5 degrés, sera épuisé dans 10 ans. Donc déterminer ce qu'est un changement climatique dangereux est quelque chose de très compliqué, avec des considérations à la fois empiriques et normatives, mais l'enseignement que nous pouvons tirer de ces données est assez simple au fond. La situation est extrêmement urgente aujourd'hui parce que d'une part, la planète a un budget carbone cumulatif qui est en train de s'épuiser, que nous ne pouvons pas dépasser, et d'autre part, quelle que soit la manière dont on calcule ce budget carbone, il est très restreint et se réduit rapidement en raison des émissions massives de gaz à effet de serre actuellement. Donc les questions de justice et d'éthique sont cruciales pour comprendre la gravité de cette situation. Les impacts du changement climatique sur les populations vulnérables à travers la planète se radicalisent au fur et à mesure que les températures augmentent. Plus les températures sont élevées, plus l'intensité, la fréquence et la durée de phénomènes extrêmes comme les ouragans, les tempêtes et les inondations, ainsi que les sécheresses et vagues de chaleur sont importantes. Donc, toujours dans le même rapport du GIEC, nous pouvons lire les considérations suivantes. Les considérations éthiques et le principe d'équité en particulier sont au cœur du présent rapport. Reconnaissant que de nombreux impacts du réchauffement jusqu'à 1,5 degré et au-delà, et certains impacts potentiels des mesures de réduction nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, touchent de façon disproportionnée les pauvres et les personnes vulnérables. Donc c'est cette idée qu'il y a des impacts disproportionnés sur les personnes les plus vulnérables d'aujourd'hui et de demain, qui est extrêmement importante. Cette citation nous emmène donc directement à la thématique centrale, qui nous permet d'expliquer pourquoi la situation est à la fois autant grave et urgente, c'est la thématique des inégalités. Le changement climatique est structuré par des inégalités radicales. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce problème écologique, c'est que les populations les plus vulnérables aux impacts climatiques, en raison de leur situation socio-économique et géographique, ont contribué le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Brièvement, il y a une forte dispersion spatiale des causes et effets du changement climatique. Donc, commençons par la première dimension de cette inégalité qui concerne l'inégalité dans la responsabilité pour la création, le maintien et la radicalisation du problème. Donc, cette carte représente les émissions cumulées mondiales de gaz à effet de serre en millions de tonnes de 1850 à 2005. Et sans trop de surprise, les États-Unis arrivent en tête. C'est la plus grosse bulle, suivie par l'Union européenne, très proche, et ensuite par la Chine, la Russie, et l'Inde et le Canada. Si l'on s'en tient aux émissions récentes, par exemple pour 2014, c'est la Chine qui arrive en tête, avec 25% des émissions mondiales suivies par les États-Unis. Par contre, plus on remonte dans le temps, plus la responsabilité des pays développés est importante. Donc si nous remontons à 1751, nous voyons que la responsabilité des États-Unis est de 26%, et si l'on prend l'ensemble de l'Union européenne, nous semble aussi autour des 25%. En d'autres termes, en termes de responsabilité historique, l'Union européenne et les États-Unis sont responsables pour à peu près la moitié des émissions mondiales cumulées. Si on passe au niveau individuel, les inégalités sont également tout à fait flagrantes. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables pour 50% des émissions mondiales, tandis que les 50% des personnes les plus pauvres sont quant à elles responsables que pour 10% des émissions mondiales. Bien qu'une part grandissante des 10% les plus riches vivent dans des pays émergents comme la Chine, l'écrasante majorité vit encore dans des pays développés, notamment avec un tiers aux États-Unis. Donc ça, c'est la première dimension de l'égalité, de l'inégalité dans la responsabilité. Si l'on passe à la deuxième dimension, c'est l'inégalité dans la vulnérabilité aux impacts climatiques. Les habitants des 47 pays les moins avancés ne sont responsables que de 0,34% des émissions mondiales cumulées de CO2. Pourtant, ils sont 5 fois plus susceptibles de mourir des impacts climatiques. Si l'on se focalise sur des États précis, comme les petits États insulaires en développement, notamment dans le Pacifique et les Caraïbes, ces États sont responsables pour moins de 0,003% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ils font partie de la catégorie des pays qui sont hautement vulnérables au changement climatique. Donc, il y a plusieurs manières de mesurer la vulnérabilité des pays. Ici, c'est un exemple parmi d'autres, c'est le World Risk Index. Et cet index montre clairement que les pays les plus vulnérables sont les pays en développement. Dans son rapport de 2019, il montre notamment que les pays les plus vulnérables au changement climatique sont notamment les petits États insulaires en développement que l'on voit ici dans les Caraïbes et ici dans le Pacifique. Donc ce qui est intéressant, si on compare ces deux cartes, on voit clairement d'une part la carte de la responsabilité avec les pays développés qui ont l'écrasante majorité de la part de responsabilité historique, notamment au nord, et les pays du sud, les pays en développement, qui sont quant à eux les plus vulnérables. C'est en cela qu'on peut qualifier les inégalités de radicales. Les populations les plus vulnérables au changement climatique sont celles qui y ont le moins contribué. Donc en quoi ces inégalités représentent-elles des injustices? Et il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mais l'approche par les droits humains me semble la plus convaincante. Le changement climatique menace de multiples droits humains. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais je me restreins ici à trois droits fondamentaux qui sont largement reconnus dans le droit international. Le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à la subsistance. On les appelle des droits de base ou des droits transcendantaux parce que ce sont des droits qui sont conditions de possibilité des autres droits humains. Par exemple, sans la garantie des droits à la subsistance, à la santé et à la vie, des droits par exemple de nature politique, comme la participation à la décision politique, sont menacés. Donc le changement climatique menace ces droits de multiples manières. Donc ici, une fois de plus, c'est juste des exemples. Le droit à la subsistance est menacé notamment par l'augmentation du niveau des mers, les événements extrêmes comme les sécheresses, les inondations, et la réduction de l'accès à l'eau, qui contribuent tous à réduire la capacité de production alimentaire de nombreuses populations vulnérables, notamment dans les pays en développement. Le droit à la santé est quant à lui menacé par des impacts climatiques comme la malnutrition, la sous-nutrition, les modifications de répartition spatiale de certains vecteurs de maladies infectieuses, notamment le moustique porteur de malaria. Et troisième exemple, le droit à la vie est menacé quant à lui par l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée d'événements extrêmes comme les tempêtes, ouragans, inondations et sécheresses. Donc, pour rappel, les habitants qui habitent dans les pays les moins avancés sont 5 fois plus susceptibles de mourir des catastrophes climatiques que les habitants d'autres pays. Et bien sûr, le droit à la vie est menacé à chaque fois que le droit à la santé et à la subsistance sont menacés. Donc la question que cela soulève, la question conscienne, c'est que dois-je faire face à cette situation? Comment contribuer à la réduction des injustices climatiques globales? Et nous entrons ici dans le domaine de l'éthique, qui s'intéresse avant tout au comportement individuel. Donc, comme j'ai dit en introduction, il existe 2 types principaux de devoirs individuels de justice climatique. D'une part, nous devons réduire autant que possible notre empreinte carbone individuelle, et d'autre part, nous devons promouvoir et soutenir l'action collective contre le changement climatique. Le deuxième type de devoir peut être rempli en participant notamment aux mouvements sociaux pour la protection du climat. Fridays for Future est un très bon exemple, tout comme les actions organisées par des ONG comme Greenpeace, Extinction Rebellion et ainsi de suite. Pour ceux qui ont l'âge de voter, les choix politiques importent également puisqu'ils permettent d'élire des partis et décideurs politiques qui sont sérieusement engagés pour la protection du climat. Ce type de devoir est important, on l'a déjà vu, dans la mesure où nous ne contrôlons pas une large partie de notre empreinte carbone individuelle. Elle dépend en partie des facteurs structurels, comme le type d'économie dans lequel nous vivons, et des infrastructures énergétiques, des politiques climatiques en place, ainsi de suite. En même temps, il est devenu illusoire aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà, d'attendre un engagement suffisant au niveau collectif, que ce soit au niveau national ou international. Les institutions en place aujourd'hui, les politiques climatiques, sont souvent complètement inadaptées pour répondre de manière adéquate à l'urgence et à la gravité de la situation. Donc cela soulève la question, pour la reformuler légèrement, que puis-je faire pour réduire mon empreinte carbone en l'absence de politique climatique ambitieuse? Et cette question est valable pour la plupart des habitants dans les pays développés, étant donné que nous n'avons pas encore de politique climatique suffisamment ambitieuse pour maintenir un réchauffement climatique à un seuil qui ne soit pas un seuil dangereux. Donc, une donnée que nous avons vue tout à l'heure également, c'est qu'une empreinte carbone individuelle, comme on peut qualifier de durable, se situe autour des 2 ou 3 tonnes de CO2 par personne et par année. Les habitants des pays riches émettent beaucoup plus que ce niveau idéal. Donc là, une fois de plus, ce sont juste les émissions liées à la production sur le territoire. Cela n'implique pas les importations, notamment, ce qui augmenterait substantiellement l'empreinte carbone des habitants de ces pays. Donc nous avons la Suisse et la France qui sont proches de la moyenne mondiale avec respectivement 4,3 et 4,6 tonnes de CO2 par personne et par année. Mais d'autres pays émettent beaucoup plus. L'Australie, notamment. L'Australie et les États-Unis, respectivement 15,4 et 16,5 tonnes, et désolé d'enfoncer le clou, on l'a déjà dit, mais voilà, le Luxembourg, avec 17,4 tonnes, qui représente le plus haut taux d'émission par personne et par année dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, comment se rapprocher du niveau idéal de 2 tonnes de CO2 par personne et par année dans les années à venir? Je voudrais m'arrêter ici sur ce graphique, qui est extrêmement important, qui compare les différents types d'actions que l'on peut adopter pour réduire nos émissions individuelles. On peut diviser le type d'action en 3, les actions à faible impact, à impact modéré et à fort impact. Donc si on regarde les recommandations habituelles des gouvernements, qui se trouvent souvent dans les manuels scolaires et qui représentent donc un bon indicateur du contenu que les élèves reçoivent en classe, se focalisent en principe sur des actions à faible impact ou à moyen impact. Par exemple, utiliser des ampoules à faible consommation d'électricité, faible impact. Et également, recycler, laver son linge à basse température et acheter une voiture hybride, ici, ici et ici, ce sont des actions à impact moyen. Toutes ces actions sont importantes, il faut continuer de les pratiquer, mais en même temps, il faut avoir conscience que leur impact sur son empreinte carbone individuelle est relativement faible. Les actions à fort impact sont moins souvent discutées et c'est souvent parce qu'elles sont plus controversées. Donc nous en avons déjà également discuté. Donc ici, c'est adopter un régime 100% vegan, donc d'origine 100% végétale. Cela permet d'économiser 0,8 tonnes de CO2 en moyenne dans les pays développés. Utiliser de l'énergie d'origine 100% renouvelable, 1,4 tonnes de CO2 par année économisée. Éviter un vol transatlantique, 1,6 tonnes de CO2 économisées, et vivre sans voiture, 2,4 tonnes de CO2. Je parlerai un peu plus tard du dernier exemple. Donc ces actions sont moins discutées parce qu'elles sont perçues comme plus controversées du fait qu'elles remettent en question nos comportements habituels. Cependant, si l'on est d'accord pour dire que le changement climatique menace les droits humains de base, et si l'on est d'accord pour dire que chacun doit faire tout son possible pour éviter de contribuer aux injustices climatiques, ces actions sont cruciales. Le GIEC explique, toujours dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré, que limiter le réchauffement à 1,5 degré exige des changements à la fois rapides, profonds et sans précédent dans tous les aspects de la société et nécessite l'évolution des comportements individuels à grande échelle. Les deux niveaux sont obligatoires, le niveau collectif et le niveau individuel. Ils sont en interaction constante, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des changements au niveau structurel qu'il ne faut pas modifier ses propres comportements. Cette discussion doit donc avoir lieu et je donne ici simplement quelques éléments de réflexion pour nourrir la réflexion nécessaire sur comment réduire son empreinte carbone individuelle indépendamment des politiques climatiques mises en place au niveau collectif. Donc pour commencer, on constate que les actions à haut impact ne sont pas toutes autant difficiles ou controversées que cela. La plus simple, à mon sens, concerne l'énergie renouvelable. Dans la totalité des pays développés, il est relativement facile et relativement peu coûteux de demander à son fournisseur d'électricité de l'énergie 100% renouvelable. À ce niveau-là, aucun changement de comportement n'est exigé. Éviter un vol transatlantique, c'est également assez peu exigeant, à moins que ce soit pour visiter de la famille ou pour un déplacement professionnel important. Au niveau des choix de destination pour les vacances, il est tout à fait possible de choisir une destination plus proche. Une action plus exigeante revient à adopter un régime vegan ou végétarien ou réduire sa consommation de produits d'origine animale de manière générale. C'est plus exigeant, surtout au début, si on est habitué à un régime avec des produits d'origine animale, comme c'est le cas pour, à mon avis, la plupart des personnes ici présentes, et bien sûr, comme ça a été le cas pour moi également, ayant grandi en Suisse. Je pense Suisse, France, Luxembourg, Allemagne, où je vis actuellement, sont tous des pays où l'on considère tout à fait naturel et nécessaire de consommer des produits d'origine animale de manière tout à fait quotidienne. Il faut juste réaliser que d'une fois que la transition est faite, les choses sont plus simples. Et ici aussi, dans la totalité des pays développés, du moins dans les grandes villes, il est relativement facile de trouver des produits d'origine 100% végétale. Donc je voudrais insister un peu sur cette action parce qu'elle est relativement peu discutée dans les débats sur le changement climatique. On discute souvent de la question énergétique, pour d'excellentes raisons. L'énergie est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, mais la question des régimes alimentaires et la question de l'agriculture notamment sont importantes parce qu'il y a également une très haute contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si on se focalise sur l'élevage des animaux de consommation, comme on les appelle, l'élevage contribue à lui seul à 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 18%, c'est énorme. Si on prend les transports, ils produisent 14% des émissions mondiales. Ce schéma ici compare les émissions de la filière de la production agro-agricole par rapport à la filière de la production des combustibles fossiles. Si on prend les 5 plus grandes entreprises qui produisent de la viande et des produits laitiers et qu'on les met ensemble, nous réalisons que les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux émissions de géants de l'industrie des combustibles fossiles. Ici, nous avons 3 exemples, Exxon, Shell et BP. Si tout le monde passait à un régime alimentaire sans aucun produit d'origine animale, les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la production alimentaire se réduiraient de 49%, presque de moitié. Je donne un autre schéma que Valérie Masson-Delmotte connaît bien également. C'est un schéma issu du rapport spécial du GIEC sur le changement climatique l'utilisation des terres, qui a été publié il y a quelques mois. Et ce schéma montre le potentiel de réduction d'émissions au niveau mondial d'ici la moitié du siècle de différents régimes alimentaires alternatifs. Donc, on part du régime méditerranéen, qui est déjà un régime où on consomme beaucoup moins de viande, et l'on va jusqu'au régime végan. Le régime méditerranéen permet d'économiser à peu près 3 gigatonnes de carbone, et si l'on passe tous à un régime végan, nous pourrions économiser jusqu'à 8 gigatonnes de carbone d'ici la moitié du siècle. Et ce rapport conclut que les changements dans les demandes en matière de choix alimentaire et de consommation peuvent aider à atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les régimes alimentaires à faible teneur en carbone ont en moyenne tendance à être plus sains et à avoir une empreinte terrestre plus petite. Donc ce n'est pas que les gaz à effet de serre, mais c'est aussi la consommation de l'eau, l'utilisation des terres et ainsi de suite qui est baissée si l'on passe d'un régime intensif en consommation de viande à un régime végétarien, voire vegan. Donc si on revient au schéma initial, nous avons également une autre action dont nous avons discuté, vivre sans voiture. C'est également une action relativement exigeante, étant donné que nous vivons dans un système économique qui dépend largement de ce moyen de transport. Mais dans beaucoup de cas, les transports publics sont une alternative possible et moins coûteuse, notamment quand on habite en ville. Et dans les cas où la voiture est nécessaire parce qu'on habite dans un endroit mal desservi par les transports publics, par exemple, il convient de préférer une petite voiture et, si possible, une voiture hybride ou électrique. Il convient impérativement de résister à ce mouvement généralisé vers l'achat de voitures toujours plus grandes, plus cylindrées, plus émettrices, plus gourmandes en énergie. Et enfin, je vais en parler assez peu, vient l'action la plus efficace, mais qui est aussi la plus controversée, faire un enfant de moins, 58,6 tonnes de CO2 économisées. Donc pour éviter directement les malentendus, personne ne défend qu'il faut arrêter de faire des enfants pour réduire ses émissions. L'idée, c'est de faire un enfant de moins que ce qu'on avait prévu dans notre projet de vie initial. Faire 2 enfants plutôt que 3 ou 1 plutôt que 2. Il faut réaliser que les choix procréatifs des habitants des pays développés ont une empreinte carbone extrêmement élevée en raison des niveaux d'émissions par tête élevés. Pour rappel, comme je vous l'avais montré dans un graphique précédent, 50% des émissions mondiales sont causées par les 10% les plus riches. Donc les enfants des 10% les plus riches sont nettement plus émetteurs que les enfants des 50% les plus pauvres. Si la plupart des pays... La plupart des habitants des pays développés décidaient d'avoir un enfant de moins, les réductions d'émissions mondiales seraient considérables. La plupart des scénarios le montrent. On peut bien sûr soulever ici une montagne d'objections, et j'imagine que vous en aurez beaucoup, mais l'idée de fond, c'est toujours la même. C'est toujours cette question éthique. Si l'on prend au sérieux le devoir de réduire son empreinte carbone individuelle, et qu'on considère que c'est un devoir individuel de justice climatique, il faudra bien, tôt ou tard, et le plus tôt possible, remettre en question certaines habitudes et certains éléments de nos projets de vie. Et la taille des familles en fait partie. Et plus nous remettons ces habitudes en question tôt, plus sera facile de changer nos comportements, parce que c'est toujours beaucoup plus dur de changer par la suite, alors qu'on a déjà adopté des comportements différents. Donc pour conclure, je pense que lutter efficacement contre le changement climatique implique la réduction de 2 décalages très persistants. Le premier décalage est un décalage entre les alertes scientifiques, d'une part, et la prise de conscience au niveau individuel et collectif d'autre part. Ce premier décalage est heureusement aujourd'hui en train de se résorber, comme le montrent les multiples mobilisations sociales pour la protection du climat et la progression des partis écologistes en Europe. Mais cela a pris beaucoup de temps. Pour rappel, le premier rapport du GIEC a été publié en 1990. Il a été suivi 2 ans plus tard par le sommet de la Terre à Rio, où les décideurs avaient déjà reconnu la gravité du problème climatique. Et de nombreux scientifiques avaient déjà tiré la sonnette d'alarme bien plus tôt. Par exemple, dans le rapport Halte à la croissance, publié en 1972, il y a près de 50 ans. La même année a eu lieu en noir et blanc sur nos écrans la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Et lors de cette réunion, il a déjà été décidé que les questions écologiques représentaient une priorité au niveau international. Donc la même année, il a donc fallu attendre, si on prend la publication du rapport Limit to Growth et les mouvements sociaux de protection sur le climat et la poussée des partis écologistes au niveau international, notamment en Europe, il a donc fallu attendre près d'un demi-siècle entre 1972 et aujourd'hui pour que le décalage entre les résultats scientifiques et la prise de conscience se résorbe. Et des événements comme l'élection de Trump aux États-Unis et de Bolsonaro au Brésil montrent que cet écart subsiste de manière non négligeable. Le deuxième décalage persistant se trouve à un autre niveau. C'est un décalage, cette fois, entre la prise de conscience et l'action individuelle et collective. Donc, ce décalage est illustré par plusieurs données. J'en donne quelques-unes. La moitié des émissions de CO2 entre 1750 et 2010 ont eu lieu au cours des 40 dernières années. Ce qui veut dire que les 40 dernières années, nous avons massivement contribué à saturer notre budget carbone. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en moyenne de 1,3% par an, de 1970 à 2000, et de 2,2% par an, de 2000 à 2010. Donc vous voyez, le taux d'émission ne cesse de croître. Au total, elles ont augmenté de 60% entre l'année de la première publication du rapport de synthèse du GIEC et 2013. Malgré la signature de l'accord de Paris en 2015, les émissions globales ont augmenté de 1,7% en 2017 et de 2,7% en 2018. Et d'après les estimations, 2019 sera également une année record. À mon avis, deux phénomènes permettent d'expliquer la persistance de ce deuxième décalage. Le premier, on en a également discuté, c'est le phénomène de dissonance cognitive. C'est une dissonance entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Une dissonance entre les résultats des recherches scientifiques et les actions collectives et individuelles. Le deuxième décalage qui m'intéresse tout particulièrement en tant qu'éthicien, c'est ce qu'on peut appeler une dissociation morale. Cette fois, la dissociation se trouve entre ce que l'on doit faire et ce que l'on fait effectivement. Autrement dit, entre les prescriptions de nos devoirs de justice climatique, d'une part, et nos comportements effectifs au niveau individuel et collectif, d'autre part. Et c'est parce que ces deux dissonances, ou cette dissonance cognitive et cette dissociation morale ont autant perduré que notre budget carbone restant est si restreint et que nous sommes contraints d'envisager des actions à haut impact relativement controversées pour réduire notre empreinte carbone individuelle. Donc le débat démocratique sur ces actions est crucial parce que ce deuxième décalage ne doit impérativement pas durer aussi long que le premier. Nous n'avons pas un demi-siècle pour agir, il ne nous reste qu'une décennie pour éviter un changement climatique que l'on a toutes les raisons de qualifier de dangereux si nous continuons à émettre au rythme actuel. Notre budget carbone est trop faible pour laisser durer plus longtemps notre dissonance cognitive et notre dissociation morale. Si nous perdurons dans notre aveuglement moral, les jeunes générations hériteront d'un monde très différent de celui dans lequel nous avons grandi. La stabilité climatique sur laquelle nos sociétés ont été construites est déjà irrémédiablement perturbée, mais nous pouvons encore éviter qu'elle le soit dangereusement. Notre rapport à l'avenir est affaire de monde possible, et l'impératif moral de notre temps est d'éviter la création d'un monde plus dangereux, à la fois pour les pauvres du monde, pour les membres des générations futures, et également pour le monde non humain. Merci beaucoup.